femmes. Comme chacun le sait, est le 25 novembre. Donc il y a un collectif d'associations sur Besançon. Peut-être, je trouve que ça fait du bruit, il faut que je parle peut-être trop près du micro, j'en sais rien. Donc il y a un collectif d'associations qui existe sur Besançon et qui organise un certain nombre de, comment dire, d'actions tout autour, sur une quinzaine de jours, qui entourent le 25 novembre. Donc là, il y a eu les actions, elles ont commencé le 19 novembre et elles vont se terminer le 5 décembre prochain, donc assez prochainement. Donc dans ce programme, il est prévu donc ce soir une conférence en compagnie donc d'Alexia Boucherie, qui est là à mes côtés, et qui est doctorante en sociologie et militante queer, et qui a travaillé sur un livre et qui a fait une étude intitulée « Troubles dans le consentement, du désir partagé au viol, ouvrir la boîte noire des relations sexuelles ». Donc, je vais la laisser se présenter, et bien sûr, pour faire son intervention, en disant que je crois que tu souhaitais qu'on pouvait interrompre, en fait, à tout moment. Voilà, on n'est pas obligé d'attendre que la personne ait terminé son intervention. Voilà, ça serait même beaucoup mieux d'ailleurs. Voilà, je te laisse la parole.
Merci. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là. Du coup, juste pour prévenir, on va parler de consentement sexuel, mais on va éventuellement parler de viol aussi. Donc, il n'y aura pas de description explicite de violence, mais c'est des sujets qui peuvent remuer. Donc, sentez-vous libre de sortir sans aucune gêne ni culpabilité ou quoi que ce soit. Je vais faire une présentation un peu académique par des formations professionnelles. N'hésitez pas, voilà, à interrompre ou à me dire si vous ne comprenez pas ou si c'est trop long, par exemple. Moi, j'aimerais d'abord commencer par vous raconter comment j'en suis venue au constat selon lequel la question du consentement n'était pas aussi claire que, comme on l'entend souvent, soit c'est oui, soit c'est non, et que seulement l'outrepassement violent d'un non serait problématique. Et donc c'est le constat qui est au centre du livre que j'ai fait, et que je vous présenterai par la suite. Donc moi, à la base, j'ai été amenée à me poser la question du consentement en entrant par la porte des violences sexuelles, comme beaucoup des recherches académiques sur ce sujet. Donc pour mon master 1 de sociologie, en fait, moi, je me suis intéressée à la question du viol et comment des féministes qui se disaient intersectionnelles sur Facebook parlaient de la question du viol. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est de voir émerger un discours alternatif à celui qu'on peut entendre, qu'on peut nommer comme étant un féminisme d'État, c'est-à-dire un féminisme institutionnel qui agit en mobilisant les dispositifs du gouvernement et souvent qui bénéficient aussi d'aides financières de la part de l'État. Donc comment, en fait, un discours alternatif allait émerger sur ces groupes-là. Et dans ce discours, qui était quand même très réflexif quant à la limite, quant aux limites structurelles de l'utilisation des institutions dominantes pour faire valoir les droits des personnes dominées, il y avait quand même un discours qui me semblait paradoxal, c'est-à-dire qu'on trouvait dans ces groupes, comment dire, c'était formulé de manière à devoir nécessairement déterminer si les situations, les témoignages qui étaient amenés dans ce groupe étaient des viols ou non, alors même que la définition juridique du viol était critiquée par ces féministes. Et donc le paradoxe que j'ai trouvé, moi, en tant que sociologue, parce qu'en tant que militante, pour le coup, j'étais plutôt d'accord avec ce que ces personnes-là amenaient, c'est que c'était qu'on puisse réfléchir à la question du consentement uniquement dans une binarité d'un côté, une bonne sexualité qui serait consentie parce que désirée, et de l'autre côté, une mauvaise sexualité qui devrait se définir comme, enfin, qu'on devrait nommer viol. Et pas d'autre alternative, en fait, que ces deux, bornes-là. Alors que, en fait, quand j'observais les témoignages qui étaient postés sur ce groupe, et évidemment aussi que je reliais aux témoignages que je pouvais avoir dans mon entourage, voire même quand je relisais mes propres expériences sexuelles, ben, je me rendais compte, en fait, que le consentement au quotidien ne pouvait pas se résumer à « est-ce que c'est un viol ou est-ce que c'est consenti ?» Et au-delà de ça, il me semblait aussi que la catégorie juridique de viol était trop limitée pour pouvoir comprendre réellement le consentement, qui m'apparaissait plutôt comme étant un spectre dans lequel il pouvait y avoir de multiples combinaisons. Donc j'ai terminé cette recherche et du coup j'ai entamé mon master 2 de sociologie avec ce questionnement-là, ce paradoxe, et j'ai étudié ce qu'on peut appeler donc les zones grises, à défaut d'avoir d'autres mots pour les nommer. Et donc, à partir de ces constats-là, moi, je me suis demandé comment je pouvais amener une réflexion sociologique sur ce paradoxe et étudier ces phénomènes, non pas comme des cas isolés, mais vraiment comme un ensemble de phénomènes sociaux quelles étaient les normes et les ficelles, en fait, derrière ce paradoxe-là. Et du coup, je me suis demandé, bon, actuellement, où se trouve le consentement au sein des normes qui traversent nos pratiques sexuelles et qui construisent notre vision de la sexualité. Et en fait, il se trouve que, tout en n'étant pas inscrit explicitement dans la loi, le consentement est pourtant la dernière norme institutionnalisée qui régule la sexualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule pratique dans la sexualité qui soit encore contrôlée par un cadre juridique, c'est la notion de consentement. Là, moi, ce qui me semblait intéressant de faire, c'est quand même une rétrospective historique sur comment on en est arrivé là. Et pour résumer de manière vraiment très grossière, la question du consentement ne se pose évidemment pas dans les mêmes termes aujourd'hui qu'elle se posait il y a 2 siècles, par exemple, là où on était vraiment dans une société fondamentalement patriarcale, c'est-à-dire dans une société où l'hétérosexualité reproductive, via la morale chrétienne, et la possession des corps des femmes par des hommes, donc d'abord le père puis le mari dans un système de transmission via la morale patriarcale, était inscrite dans la loi. Donc avec la révolution de 1789, ce sont les conceptions morales de liberté et d'égalité, ainsi que la remise en cause du pouvoir religieux, qui réorientent la sexualité vers cette notion de consentement. Et en 1810, du coup, le code pénal va créer le crime de viol. Mais toujours sans réellement définir cet acte. Il est communément admis à cette époque que le viol renvoie à un coït illicite avec une femme que l'on sait ne pas y consentir. Donc, la morale chrétienne, même si elle n'est plus légitimée par l'État, on voit quand même qu'il y a une norme implicite qui va structurer les configurations sexuelles, puisque le coït est illicite, non pas parce qu'il pourrait... Nombre en prenant en compte les dommages psychiques et physiques que le viol pourrait faire chez la victime, mais le coït est illicite juste parce qu'il est effectué hors mariage. Donc, en fait, il pourrait mettre en péril le système de filiation. Mais on observe quand même que le terme de consentement est cité dans cette loi. Les caractéristiques du non-consentement vont être précisées un siècle plus tard, avec l'idée qu'en déterminant les actes qui contraignaient ce consentement, qu'on pense libre et éclairé, ce dernier pourrait alors mieux s'exprimer et rendre compte, vraiment garantir les libertés individuelles au travers de la sexualité. Donc, dans les années 1960-70, donc pendant tout ce laps de temps-là, on restait avec la dimension du coït illicite avec une femme dont on sait ne pas consentir. Enfin, voilà, on restait quand même avec un gros flou, et les revendications féministes des années 1960-1970 vont ramener véritablement la description de ce qu'on entend par... vont essayer en tout cas de définir le consentement en disant ce qui vient le contraindre. Donc en 1992, le nouveau code pénal va entériner ses revendications du consentement comme norme obligatoire en modifiant cette fois la loi sur le viol qui mentionne désormais, et c'est la loi qui nous gouverne encore aujourd'hui, que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, et cette mention-là vient d'être ajoutée en 2018, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol, et le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, à mon sens, c'est vraiment d'analyser comment ces revendications des libertés à disposer seule de son corps et à être seul décideur ou décideuse de s'engager dans une relation sexuelle vont être finalement traduites dans une loi qui définit juste les actes qui entravent cette liberté. C'est-à-dire que si on décortique cette phrase, on s'aperçoit qu'elle sous-entend que finalement tout corps serait consentant par défaut à partir du moment où il n'y a pas d'actes qui viennent le contraindre. Et de tout ça, je pense que vous pouvez... Ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'actuellement, le consentement à une relation sexuelle est rendu caduque uniquement par l'usage explicite de la violence. Auparavant, c'était officiellement la morale religieuse et patriarcale. Aujourd'hui, on affiche une intolérance à la violence. Et en fait, on se rend compte, en analysant tout ça, qu'on n'a jamais su parler du consentement en tant que tel. On l'a toujours défini comme étant le contraire de ce qui était interdit. On ne sait pas en parler autrement, voire même on n'en parle pas tant qu'il n'est pas problématique, c'est-à-dire tant qu'il n'apparaît pas sous un questionnement autour de violences sexuelles ou de viols tels que ce dernier est cadré juridiquement au gré des époques. Donc, pour en revenir du coup au sujet de mon intervention, donc les zones grises, qu'est-ce que c'est ? Moi, je les ai définies comme étant des relations sexuelles qui ont été explicitement acceptées, donc consenties, puisque explicitement acceptées sans usage de violence, mais qui n'étaient pas pour autant désirées. Donc, en gros, c'est tous les récits de relations sexuelles qui pourraient commencer par « je n'en avais pas envie, mais je l'ai fait ». Pour telle ou telle raison, et moi, véritablement, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre quelles étaient ces telles ou telles raisons. Et surtout de comprendre pourquoi il y avait encore des personnes qui se contraignaient à avoir des relations sexuelles, alors même qu'elles ne sont plus soumises à un quelconque ordre légal, par exemple, de devoir. La notion de devoir conjugal n'existe plus, voire même depuis les 20 dernières années, alors que des mesures sont prises par le gouvernement pour justement dire que le consentement est primordial et qu'il ne faut surtout pas se forcer. Mais pour autant, on s'aperçoit qu'il y a toujours non seulement des viols, mais aussi des zones grises. Donc là, la question, en fait, c'est comment c'est possible ? Et moi, pour répondre à cette énigme, du coup, j'ai enquêté pendant 2 ans auprès de jeunes hommes et femmes cisgenres. Donc cisgenres, c'est... C'est-à-dire que l'identité de genre des personnes est en accord avec celle qu'on leur a attribuée à la naissance. Je ne sais pas si c'est clair, si ce n'est pas clair, on pourra revenir dessus. Donc ces jeunes hommes et femmes de 18 à 30 ans, de toute orientation sexuelle, plutôt orientés dans des professions et études du côté du social, c'était des personnes toutes blanches et nées en France, sauf pour une jeune femme. Et du coup, je leur ai demandé en fait, de me raconter leur biographie sexuelle. Donc, la biographie sexuelle, c'est quoi ? C'est de me raconter toutes leurs relations sexuelles dont elles se souviennent, qu'ils ont eues depuis leur entrée en sexualité avec partenaire jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis rendu compte en fait, que dans chacune de ces biographies sexuelles, il y avait à minima un épisode de zone grise, donc un épisode où ces personnes avaient accepté une relation sexuelle, voire proposé une relation sexuelle, sans pour autant que cette proposition-acceptation soit initiée par du désir pour la personne. Et du coup, moi, de ces réponses, j'ai pu identifier 3 modèles de justification de pourquoi ils et elles ont accepté ça. Mais qui peuvent en fait se résumer autour d'un concept un peu barbare qui s'appelle l'hétéronormativité. Et donc, je vais vous dire ce que c'est. De manière très résumée, ça désigne... il va falloir un peu s'accrocher là, mais dites-moi si c'est pas clair. Donc, c'est un système normatif qui va gratifier les codes de l'hétérosexualité. C'est-à-dire que... Donc ces codes, c'est-à-dire la reproduction de rôles sexués, actifs, passifs, selon le genre que l'on performe. L'hétéronormativité, c'est un ensemble de valeurs, de normes et de conduites qui découlent du modèle hétérosexuel biologique tel qu'on le conçoit en tant que combinaison naturelle d'un mâle et d'une femelle dont l'association vise à perpétuer la reproduction. Sauf que dans tout ça, en fait, vient une dimension de genre, c'est-à-dire le rôle social, la construction sociale qu'on va faire peser à ces deux entités. Donc on a un mâle et une femelle, on va leur attribuer des comportements différents, sous prétexte que, comme ils sont interdépendants, ils doivent se compléter dans leurs rôles sociaux. On parle alors de répartition genrée, puisqu'un homme va se voir attribuer une définition de la masculinité en des termes de virilité, de force, de conquête, d'actif. La féminité, elle, va être définie par l'écoute, la douceur, la patience, le passif. Et donc, dans l'apprentissage de la sexualité, on retrouve véritablement ces catégories d'actifs-passifs, et même quand on sort des relations strictement hétérosexuelles. Et c'est en ça où je trouve que ce concept d'hétéronormativité est vraiment précieux, parce que, justement, il permet de comprendre tout un système sur ce modèle d'actif-passif. Pour illustrer tout ça, un exemple très clair avec ce qu'on appelle la séduction et même ce dont certains et certaines personnes nomment la séduction dite à la française, c'est-à-dire de courtiser une personne, un amour qui apparaît au début comme étant impossible. Donc c'est l'idée de démontrer tout son amour, de braver les obstacles, de déterminer l'amour qu'on porte à une personne par l'insistance qu'on va mettre en place et qui est censée à la fin faire céder l'être aimé. Donc là on voit bien en fait le maintien du coup de ce rapport actif-passif avec une personne qui a l'initiative de la séduction et l'autre qui doit réguler en disant oui ou non. Donc, et traditionnellement ces rôles sont associés au masculin et au féminin. Sur la question du consentement, du coup, il y a un premier modèle de zone grise que j'ai appelé par conformité, puisqu'on retrouve la volonté d'accorder les comportements sexuels en fonction du genre que l'on performe, donc selon ce côté masculin actif, féminin passif. Dans ce modèle, plus on va adhérer aux stéréotypes du masculin et du féminin, plus on va avoir tendance à accepter ou proposer des relations sexuelles pour être conforme aux réactions qu'on suppose que les autres attendent de nous. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Et du coup, ce phénomène est exacerbé lorsque les situations sexuelles se déroulent, ou en tout cas les situations de séduction se déroulent quand on est entouré de personnes. Et donc, souvent, les personnes ont mentionné, les enquêtés ont évoqué des soirées, d'autant plus avec de l'alcool, dans lesquels ils s'étaient forcés à avoir une relation sexuelle simplement parce qu'ils et elles avaient préalablement flirté avec la personne en public. Donc d'un côté, les hommes avaient tendance à me dire qu'ils l'avaient fait pour rassurer, en fait, c'est-à-dire pour surtout ne pas passer pour un PD, mais pour un homme qui va valider sa masculinité au travers de ses conquêtes hétérosexuelles. Et les femmes, de l'autre côté, me disaient que c'était pour ne pas passer pour une pute, en étant dans un jeu de séduction sans assumer jusqu'au bout leur entreprise première. Comme si, en fait, une fois qu'on avait mis le pied dedans, on était voué à finir la tâche. Oui, donc voilà, on voit bien ici que, finalement, c'est l'intériorisation d'une conduite qui dit que si on est un homme, on doit avoir tel comportement sexuel, si on est une femme, on doit avoir tel comportement sexuel, et non un véritable désir de l'acte sexuel. Donc la question du consentement, là, se pose. Oui. On me pose la question de comment les individus font pour déterminer, pour apprendre, en fait, ce qu'est un comportement sexuel ou pas. J'ai bien résumé, oui. Et alors, sur cette question, ça mériterait vraiment une conférence à part entière. Il y a ce qu'on, en fait, grossièrement, C'est de l'ordre de l'intime, nos représentations et nos pratiques, mais on vit dans une société, en fait, et dans laquelle on est entouré par des médias, on est entouré par des phrases toutes bêtes comme quand on est un enfant, on va avoir ce comportement, par exemple, de l'actif qui va être, intériorisé dès tout petit, puisqu'on va dire aux garçons, bah voilà, tu peux en gros explorer le monde. Aux filles, on va plutôt dire, fais attention. Donc déjà, là, il y a quand même un côté déjà très genré qui s'apprend. Après, sur les questions, par exemple, sur la question du consentement, il y a une étude qui était sortie sur comment la question du consentement était évoquée dans les cours d'éducation à la sexualité, donc au collège. Et ce rapport montrait que là aussi, on avait une construction genrée du consentement qu'on allait dire aux garçons, alors tu ne dois pas violer, et aux filles, attention, protégez-vous, en gros. Donc là, voilà, on voit bien qu'il y a quand même un apprentissage aussi de qui va être l'agresseur, de qui va être la victime, et qui va avoir un impact sur nos propres pratiques et représentations du consentement. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Après, à l'adolescence, on a ce qu'on appelle le porno, qui est accessible partout et qui va donner une image de ce qu'est la sexualité. Et sans même aller jusque-là, en fait, ne serait-ce que sur la question du consentement, quand on regarde tous les films, n'importe quel film où il y a une relation d'amour entre les personnes, on se rend compte que les scènes, généralement, il y a quand même une scène de sexe aussi entre ces deux personnes, et le consentement va se matérialiser dans une scène où les deux personnes se regardent, les yeux dans les yeux, et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre ces deux corps, et la scène d'après, bam, ils sont dans un lit, et soit ils sont en train d'avoir une relation sexuelle, soit ils ont terminé. Donc rien que dans des films qui a priori ne sont pas interdits à quiconque, on voit comment dans les postures, les individus vont être montrés dans ces films-là, par exemple. On pourra en reparler par la suite, mais après, voilà, c'est pas mon sujet d'étude premier, mais je vous invite à aller consulter ce qu'on appelle les scripts sexuels de John Gagnon, et du coup, vous allez vraiment trouver comment la sexualité d'un individu peut s'articuler. Ce sera plus simple. Du coup, il y a un deuxième modèle de zone grise que moi j'ai nommé sous-emprise et qui est lié à la nature de la relation entre les personnes dans laquelle la relation sexuelle grise s'est passée. Donc, comme je le disais précédemment, c'est-à-dire que l'hétéronormativité va aussi agir sur la vision de la conjugalité, c'est-à-dire qu'on va considérer que quand il y a conjugalité, il doit y avoir relation sexuelle et relation sexuelle épanouie, donc c'est-à-dire une relation sexuelle qualitative et quantitative. Un exemple tout simple. Combien de magazines sexo, voire même de sexologues, vont considérer que le sexe est le ciment du couple? J'imagine que vous avez déjà entendu cette phrase. Ou bien que lorsqu'il va y avoir un dysfonctionnement dans la sexualité, c'est tout le couple qu'il faut évaluer parce que ça vient forcément dire quelque chose sur l'amour que la personne porte à l'autre. Donc avec cette idée que la sexualité est totalement automatiquement livrée en fait avec le lot de la conjugalité, le terme de devoir conjugal qu'on a sorti de la loi en 1992, donc c'est encore très récent. Et je vous laisse constater par vous-même, ne serait-ce que le terme même de dire faire l'amour. On voit bien comment ça a été construit ensemble. Donc voilà, donc là, les personnes vont accepter des relations sexuelles par amour pour l'autre, mais aussi, par exemple, en se disant que ça fait trois fois que je refuse, il va bien falloir y aller. C'est une phrase que j'ai pu retrouver, ce truc de « on va, il va falloir y aller ». Quoi. Et sinon, bah, il ou elle va potentiellement penser que je ne l'aime plus. Et on peut également avoir un renforcement de cette idée via des, ce qu'on peut appeler du chantage affectif. Donc là où c'est vraiment le partenaire qui va, ou la partenaire qui va induire des phrases du type « tu ne veux pas coucher avec moi, c'est parce que tu ne m'aimes plus ». Ou quelque chose même de plus menaçant, comme tu ne veux pas coucher avec moi, ne t'étonne pas si je vais voir ailleurs. Ça, c'est des choses que les personnes ont pu me dire. Et du coup, voilà, sans encore une contrainte explicite, les personnes se disaient, bon, il faut que je sauve mon couple, en fait. Il faut que j'accepte la sexualité. Après, il y avait aussi dans cette idée de sexualité pour la relation, il y avait aussi des choses un peu plus légères, où, par exemple, un enquêté me disait que la sexualité va, en quelque sorte, acheter la paix du foyer. Et je trouvais ça assez juste parce que voilà, c'était une activité sexuelle contre « après, on me laisse tranquille pendant 3 semaines ». Ou alors une autre personne qui n'avait pas de voiture et sa copine en avait une et du coup c'était les vacances et donc pour garder la relation avec sa copine, bah, du coup même si elle n'aimait pas du tout avoir des relations sexuelles avec elle, elle en avait quand même pour conserver cette relation pour qu'elle puisse aller à la voiture, à la mer avec ses copains et copines grâce à la voiture de sa copine. Et enfin, du coup, il y a un troisième modèle qui concerne les zones grises, que j'ai nommé par altruisme. Et là, on a des relations sexuelles qui vont être acceptées ou proposées avec comme justification de faire plaisir à l'autre, avec une démarche un peu de don de soi. Et ce modèle va plutôt se retrouver dans une conjugalité qui est déjà installée, comme le modèle précédent d'ailleurs. Et ça va être interprété ou justifié par les individus comme étant une manière d'expérimenter et d'alimenter leurs propres limites. Donc ça va plutôt, là pour le coup, concerner le consentement à des pratiques sexuelles dont les personnes n'avaient pas forcément, ne s'étaient pas forcément intéressées, mais qui ne vont pas être contre le fait d'essayer pour faire plaisir à leur partenaire. Et à chaque fois, c'était bien nuancé dans leur discours que si jamais cette pratique devenait trop pénible lors du rapport, alors ils et elles n'hésitaient pas à arrêter le rapport en se sentant légitimes. Et c'est un point aussi qui est important parce que dans les modèles précédents, cette idée de légitimité à refuser une relation sexuelle n'était pas du tout amenée. En fait, c'est-à-dire que souvent dans les entretiens, et notamment plutôt les femmes, se sentaient obligées d'amener une justification légitime par rapport à une indisposition quasi sanitaire de leur corps. C'est-à-dire que si elles avaient mal à la tête, le motif des règles était souvent invoqué pour dire bah « non, là, mon corps n'est pas disponible ». Et donc ça, pour moi, ça renvoie vraiment à cette idée que les corps sont consentants jusqu'à ce qu'on vraiment ont... qu'il faille matérialiser le fait qu'un corps n'est pas disponible pour une relation sexuelle. Et c'est là aussi, là c'est un modèle qu'on va considérer, enfin que les personnes considéraient comme moins grave que les deux autres, sachant qu'en fait ces trois modèles pouvaient se retrouver dans une même biographie sexuelle. Il y avait des personnes qui avaient expérimenté ce même... ces trois zones grises. Et donc là, ça va être considéré comme moins grave parce qu'il y a une forme de réappropriation en fait, de la relation sexuelle non désirée sous la forme d'une expérience. Donc là, un exemple, c'est qu'un enquêté de 18 ans me racontait qu'en s'endormant suite à une soirée alcoolisée, il s'était réveillé par un autre garçon qui était en train de lui faire une fellation. Et aujourd'hui, juridiquement, on pourrait... considérer, enfin, on pourrait en tout cas amener ce cas pour un procès pour viol ou agression sexuelle. Mais ce jeune garçon m'a dit que lui, il préférait voir ça comme une expérience, parce qu'au début, il était un peu surpris, mais finalement, qu'il a ressenti du plaisir. Donc, plutôt que de définir ça comme un viol, puisqu'il m'a dit... Il m'a dit qu'il n'avait pas été traumatisé. Et ça, je trouve ça, que c'est pareil, une idée intéressante que je développe dans le livre, c'est que à quel point en fait, les personnes vont faire la comparaison entre les représentations du viol ou leur connaissance du viol pour classer leurs propres expériences sexuelles. C'est-à-dire que la phrase « c'est pas comme si j'avais été violée non plus » est souvent revenue pour justement relativiser les expériences grises vécues et aussi pour les rationaliser et pour, voilà, pour avoir un modèle sur lequel déterminer si ce que j'ai vécu, c'était consenti ou est-ce que c'était du viol. Et voilà, on repart sur un manque d'outils pour véritablement parler de ce qui se passe en dehors de ces deux catégories-là. Voilà, du coup, ben, en conclusion, moi, ce que je propose, c'est que cette analyse serve de support, en fait, pour montrer que, manifestement, on est encore loin d'une sexualité libérée, révolutionnée, comme on pourrait le prétendre, ou bien encore qu'il serait facile de refuser une relation sexuelle qu'on ne désire pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a quand même tendance à reléguer de manière... On a tendance à reléguer sur la responsabilité individuelle d'accepter ou refuser une relation sexuelle, ce qui fait, par exemple, qu'on va préférer conseiller aux jeunes filles de ne pas se promener la nuit en jupe plutôt que de remettre en question les stéréotypes culturels qui contribuent aux violences structurelles. On va avoir tendance à en fait individualiser la question du consentement sans prendre en compte le fait que justement il y a tout un apprentissage culturel qui fait que c'est tout ce que j'ai dit avant du coup qu'on va préférer dire aux personnes responsabilise-toi, ne sors pas la nuit parce que tu sais bien que c'est dangereux, alors que plutôt que de remettre en question le fait que c'est dangereux, pourquoi quelle idée va sous-tendre le fait que ça peut être dangereux dans la rue, alors qu'en fait on se rend compte que les viols sont majoritairement commis dans l'entourage proche, dans la famille. Donc voilà. Et j'ai fini. Du coup, si vous voulez poser des questions.
Vous indiquez votre échantillonnage pour votre travail, donc des blancs. Vous pourriez en dire plus sur le tranche d'âge, les univers socio-professionnels, éventuellement, est-ce que vous avez également vérifié avec eux l'âge du premier rapport sexuel, est-ce qu'il y a des données comme ça que vous pourriez échanger avec nous? Ou est-ce qu'il faut lire votre livre pour avoir toutes ces informations?
J'en parle sûrement dans le livre. Après, voilà, l'échantillon, c'était du 18-30 ans. Moi, j'avais sélectionné cette tranche d'âge parce que, voilà, on était encore dans une... Comme le... L'âge de... je ne sais pas comment dire ça. Les études ont tendance à être prolongées. Donc, du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était quand même d'avoir une catégorie de personnes qui n'étaient pas encore dans un foyer stable, dans une construction de foyer avec des contraintes relationnelles plus compliquées que juste être en relation avec une personne avec qui, pour l'instant, il n'y a pas eu d'enfant, par exemple. Voilà, donc 18-30 ans. Donc, comme j'ai dit, c'était plutôt des personnes venant d'un milieu social, plutôt des personnes qui travaillaient ou qui étudiaient dans des carrières sociales, plutôt d'une classe moyenne sup. Et puis, oui, l'âge du premier rapport sexuel, bah oui, c'était une question qui était posée. Les entretiens duraient entre 2 heures. Bien 2 heures, voire 2 heures et demie. Et évidemment, oui, je leur demandais à quel moment il et elle avaient eu leur premier rapport sexuel. Je les laissais déterminer ce qu'il ou elle voulait appeler première relation sexuelle, donc avec pénétration ou non. Généralement, les personnes me parlaient de leur première relation sexuelle avec pénétration, ce qui en dit long sur la conception des relations sexuelles.
Je voulais savoir, par rapport aux différentes zones grises que vous avez évoquées, est-ce que vous pensez qu'on peut considérer la peur de vexer comme faisant partie de ces zones grises?
C'est quelque chose qui est...
La peur de vexer, on va pas entendre.
Ouais. Je crois que j'en parle là aussi dans le livre et que c'est plutôt relatif justement à la relation en fait, puisque c'est l'idée de ne pas froisser l'autre et que ça altère la relation entre les individus. Oui, il y avait une personne aussi, alors ça je crois que je ne l'ai pas forcément comptabilisé parce que c'était un cas assez isolé, mais oui, une personne qui n'osait pas dire à sa partenaire qu'elle trouvait qu'elle avait une odeur corporelle désagréable. Et donc là, voilà, où là, elle se contraignait vraiment, mais oui, c'était plus une gêne qui n'avait pas forcément trait à la relation, c'était plus le fait de devoir dire ça à une personne qui était gênant. Mais effectivement, ouais, la peur de vexer. Et après, dans des cas un peu plus graves, il peut y avoir aussi la peur de vexer par rapport aux représailles. C'est un peu ce truc-là d'une personne qui va dire « t'étonne pas si je vais voir ailleurs ». Il y a un peu ce truc-là aussi de peur des représailles que ça peut engendrer. Je ne sais pas si ça répond. Ou...
Si, ouais. C'est bien. Merci.
Il y avait une question.
Et du coup, parmi toutes les personnes de l'échantillonnage, il n'y en a aucune qui, au cours de l'entretien, a posteriori, du coup, a posé le mot de viol sur une ou plusieurs des expériences vécues. C'était à chaque fois, c'est pas comme si j'avais été violée, ou est-ce qu'il y en a qui, quand même, étaient dans ce trouble-là aussi, justement, a posteriori, quoi.
Alors, a posteriori, non. Il y a des personnes qui ont été très justement en questionnement sur, enfin c'était pas du questionnement mais elle me disait oui là effectivement là maintenant qu'on parle de ça, oui la relation dont je t'ai parlé juste avant, oui peut-être qu'on pourrait dire que c'est un viol mais quand même moi je le considère pas comme ça. Il y avait certaines personnes qui me décrivaient pour moi des viols, hein. Il y avait une personne qui me parlait du fait qu'elle avait pleuré pendant une relation sexuelle, mais que son partenaire avait continué. Pour moi, voilà, est-ce qu'on peut mettre le mot de viol dessus? Mais en tout cas, il y a un problème là. Et voilà, la personne, par contre, ne voulait pas mettre le mot de viol dessus. Après, par contre, il y avait des viols qui étaient identifiés par les individus, mais avant même que l'enquête soit menée, enfin avant même que je développe un peu tout ça, c'est-à-dire qu'elle pouvait me dire, si par contre, j'ai eu un viol, c'était souvent les personnes que j'ai eues, c'était dans l'enfance et par un membre de la famille, et où là pour le coup elle faisait référence de cet acte-là qui pour le coup les avait véritablement touchés en disant voilà. Par rapport à ça, là, ce que j'ai vécu après, c'est pas dans ce cadre-là, quoi.
Vous nous avez parlé de ce jeune homme qui avait subi une fellation et qui a trouvé du plaisir. Je crois que souvent, on voit quand même dans les jeunes gens ou jeunes filles qui ont été abusées, disons, un peu de façon régulière dans l'enfance, on trouve souvent des... souvent ils disent qu'effectivement, par moments, il y a eu du plaisir et que pour eux, ça a été difficile. Pour eux, c'est une difficulté, soit à porter plainte, soit parce qu'ils en culpabilisent. Qu'est-ce que vous en pensez?
Totalement. Enfin, donc là, c'est pas quelque chose que j'ai rencontré dans le cadre de mon enquête, mais oui, effectivement, il y a une double culpabilité pour les victimes qui ont ressenti du plaisir durant le viol qu'elles ont subi. Et ça arrive, et c'est pas du tout parce que le rapport était consenti, et ça j'en parle dans le livre du coup aussi, c'est cette association qu'on va avoir tendance à faire entre le consentement et le plaisir. Et c'est pas parce que on ressent du plaisir que il y a du consentement. Il peut y avoir juste une réaction mécanique des corps à un certain stimuli qui fait que le ressenti de plaisir est activé. Et notamment, par exemple, ça arrive pour des victimes hommes cisgenres, donc qui auraient eu une érection et où on va dire, tu vois bien, tu as eu une érection, c'est que tu avais envie. de cette relation sexuelle. Tout comme tout ce qui va être sécrétion de fluide, donc du sperme, de la cyprine. Voilà, ça ne signifie pas que la personne était consentante. Ça signifie juste que le corps fonctionne.
Quand vous avez présenté la première des zones grises, vous avez cité comme exemple, c'était en soirée, il y avait un peu de drague, et puis deux exemples, l'homme qui ensuite poursuit cette drague par une relation sexuelle, et il le fait pour assurer sa virilité, pour ne pas passer pour un PD. Et puis la femme, elle, vous avez dit, elle le fait pour ne pas passer pour une pute. Et moi, je trouve ça quand même très étonnant et paradoxal qu'il faille passer par une relation sexuelle pour ne pas passer pour une pute. Voilà, je m'étonne.
Tout à fait, et c'est ce qu'on appelle en fait le double standard auquel les femmes sont soumises, c'est-à-dire que il ne faut pas qu'elles soient frigides, mais il ne faut pas qu'elles soient non plus trop actives sexuellement. On a vraiment ce double standard, mais quelque part en fait, sûrement qu'il doit y avoir, une explication étymologique à ça, mais on entend souvent cette insulte de pute à une personne qui serait dans de la séduction, puis finalement qui arrête. Voilà, je parle juste là dans la langue, en fait, ce que les personnes disent, en fait. Je ne dis pas du tout qu'il faut dire qu'une personne, qu'une femme qui ne va pas avoir de relation sexuelle va être... appelé comme ça. Je suis d'accord avec vous sur le fait que, étymologiquement parlant, c'est vraiment contradictoire. Mais combien de personnes, dans ce qu'on appelle le harcèlement de rue, se font traiter de salopes parce qu'elles ne répondent pas à une personne ? Enfin, voilà, on a vraiment un problème dans les insultes françaises aussi, qui ne sont pas trop adaptées aux...
Oui, je voulais vous demander si, enfin, je ne sais pas si vous avez pu voir ça dans votre étude, ou bien si vous avez des pistes ou des idées, justement des éléments qui peuvent aider ou à sortir de ces zones grises en lien avec des notions d'autonomie, de liberté, enfin, qui sont quand même plutôt développées. Enfin, je ne sais pas. Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui paralysent, qui bloquent très très fortement les personnes, et puis du coup, qui... Les zones grises sont fortement ancrées, quoi.
Alors, au vu de l'étude, oui, il y a un ancrage des zones grises, parce que même les personnes... il y avait, dans le lot, il y avait aussi des personnes féministes, ouvertement féministes, militantes, qui, quand même, avaient vécu ces zones grises-là. Mais, effectivement, il y avait une différence, justement, quand elles étaient plutôt entrées dans un militantisme et... Pareil, en fait, toutes ces questions-là, j'en parle aussi dans le livre. Du coup, on voit qu'il peut y avoir des parcours différents qui me semblaient apparaître lorsque soit on avait été confronté soi-même à des violences sexuelles, et auquel cas les personnes étaient vraiment beaucoup plus attentives à la moindre forme d'emprise ou même d'elle-même, de ce qu'elle pouvait se contraindre à faire. Il y a ça, et il y a aussi des personnes qui ont rencontré les réflexions féministes et qui, du coup, se sont mises à justement lire à propos des stéréotypes de genre, des stéréotypes, ce qu'on nomme la culture du viol et ce dont une conférence, il y a quelques jours, parlait. Voilà, des personnes qui vont être un peu plus conscientes sur tous ces facteurs-là qui peuvent agir dans la société, mais pour autant, ça ne les empêche pas de continuer à s'inscrire parfois dans des zones grises, puisque c'est quand même fortement intériorisé, en fait. Et, tant qu'il n'y aura pas réellement une prise de conscience massive, je pense, de la société qui viendrait justement Ben, par exemple, voilà, arrêter de dire soit c'est consenti, soit c'est un viol. Et qu'on parle un peu de ce qu'il peut y avoir entre, déjà, j'imagine que ça peut justement amener à réfléchir à tout ça. Le fait aussi de s'autoriser à voir le consentement autrement qu'une pratique uniquement corporelle. Le fait, par exemple, d'introduire des questions dans une relation sexuelle, c'est-à-dire de s'assurer que l'autre va bien, que l'autre est d'accord pour faire ce qu'on est en train de faire. Voilà, plutôt que de se dire « Ok, il ou elle a l'air consentant et consentante par rapport aux idées que j'ai de ça, donc je ne vais pas poser la question, j'y vais ». Voilà, ça c'est des petits outils qui peuvent faciliter une pratique alternative du consentement.
Je me demandais si dans les gens dont vous avez recueilli le témoignage, il y en a qui exprimaient des regrets de la manière dont ils avaient eu des relations sexuelles ou pas. Parce que l'exemple que vous avez cité du jeune alcoolisé qui se fait sucer, une fellation, il ne semble pas vraiment regretter.
Non.
Bon, donc, où est le problème, je dirais, d'un certain point de vue ?
Ah, mais du coup, en fait, c'est aussi l'objectif que j'ai dans cette discussion, c'est de montrer que ce n'est pas forcément non plus problématique. Dans le sens, enfin, problématique dans le sens de la gravité. Si les personnes considèrent que bon, ça s'est passé, j'en ressors comme j'en ressors, voilà. Moi, j'allais pas leur dire oui, mais attends, t'as peut-être été un peu violée là ou quoi. C'était vraiment, voilà, moi, j'accueillais leurs témoignages et justement, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment ces personnes en viennent à considérer que c'est pas forcément grave ou que c'est pas forcément problématique. Des regrets, il y en a eu peu. Alors, il y a eu des regrets plutôt de dire oui, bah, j'étais bourrée, j'aurais pas dû, mais pas sur des questions de consentement, juste sur des questions que bah, c'était nul, ou voilà, plutôt des regrets sur le fait que la relation sexuelle n'était pas terrible. En revanche, il y a eu parfois des remises en question, et ça, c'est notamment plutôt de la part des hommes qui, du coup, se disaient « Ah oui, mais alors peut-être que là, dans cette relation sexuelle, peut-être que j'ai un peu forcé ou quoi. » Et à mon sens, ça parle aussi beaucoup de l'intériorisation des rôles. C'est-à-dire que les femmes, aucune femme ne s'est dit « Ah oui, peut-être que moi, j'ai un peu abusé. » Il y avait même une femme, par exemple, qui me disait qu'elle avait des techniques pour arriver à ses fins. Dans la bouche d'un homme, je pense que ça serait vraiment pas passé. Dans sa bouche à elle, elle le prenait vraiment comme elle ne voyait pas du tout pour le coup le problème que ça pouvait susciter. Qu'elle dise de toute façon, moi j'ai mes techniques et j'arrive à mes fins. Donc pas forcément de regrets, mais plus ouais des prises de conscience et en tout cas beaucoup de questionnements après sur leur biographie sexuelle.
Donc, j'avais une question. Vous avez évoqué les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école. Est-ce que vous pensez que quand on travaille sur le rôle et la place des filles et des garçons dans la société, on peut faire évoluer les représentations forcément des hommes et des femmes et faire évoluer cette posture qu'on transmet hein, de sexualité aux filles et aux garçons notamment dans quelle mesure on influe aussi sur cette approche et puis on a eu des débats il y a quelque temps sur l'approche genre et en quoi travailler sur l'égalité filles-garçons eh ben, on cherchait éventuellement à changer le sexe des enfants. Est-ce que, enfin, ça, c'était ce qui était évoqué hein, pour les détracteurs du travail sur cette question. Comment vous abordez cette question ou que pensez-vous de ça ?
Moi, je pense que oui, l'éducation peut évidemment peut en tout cas, si ce n'est modifier, donner un point de vue alternatif et où les individus pourront justement piocher entre bon ben voilà, j'ai eu plusieurs visions, comment je me construis moi après en tant qu'individu en ayant plusieurs trappes en fait dans lesquelles piocher. Sur la question des inégalités de genre qu'on pourrait apprendre, enfin déconstruire justement dès tout petit. Moi, je suis évidemment pour parce que on se rend vraiment compte que les enfants se fichent des questions de genre. Enfin, moi, j'ai des amis trans qui ont annoncé leur transition à un enfant de 7 ans, l'enfant a juste dit oh, bah, ok, c'est cool, c'est quoi ton nouveau prénom, enfin, des trucs comme ça. Ils sont vraiment pas. C'est après tout ce qu'on met autour, nous, en tant qu'adultes, tout ce qu'on va justement inculquer que bah, c'est mal, une fille, c'est une fille, un garçon, c'est un garçon, ça fait comme ça. Alors que je pense vraiment que si on avait une éducation différente et justement dégenrée, il y aurait beaucoup moins de problèmes. On en parlait cet après-midi, enfin, dans une conversation personnelle, du coup, sur à quel point, en fait, on se complique la vie avec les questions de genre, alors que si on acceptait juste toutes les personnes comme elles se sentaient dans leur genre et qu'on n'allait pas faire justement une police du genre, vraiment, il y aurait déjà beaucoup moins de violence. Et puis en plus, voilà, c'est pas intéressant, en fait, de devoir toujours renormer une personne. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça répond.
Vous pensez qu'au niveau de l'éducation et de l'école, ils auront la capacité d'agir là-dessus ?
Alors, ça, je ne sais pas, parce que du coup, forcément, ça fait entrer aussi des questions sur, j'imagine, à quel point les chefs et chefs d'établissement autorisent ce qui se passe dedans, aussi le rapport aux parents. J'imagine que voilà, il doit y avoir des politiques très, très... strict là-dessus pour justement pas faire de vagues, tout ça. Mais en revanche, oui, l'école élémentaire, c'est a priori un passage obligatoire pour beaucoup d'enfants. Et donc j'imagine que oui, s'il y a un espace où du coup on peut apprendre des bases communes, ça peut être un espace où on va toucher peut-être le plus d'enfants. Et évidemment, de toute façon, cet enfant-là, quand il va rentrer après dans son milieu familial, si son milieu familial a des normes très strictes sur voilà, une hétéronorme, par exemple, très stricte, ça va être compliqué de modifier après, j'imagine, la visée de cet enfant. Mais sauf que peut-être que cet enfant se rappellera de « Ah oui, mais en fait, on m'avait dit quelque chose qui m'avait touché dans ce cours d'éducation ». Peut-être que voilà, ça peut être des petites graines en fait qu'on sème un peu et après, en espérant qu'elles poussent. Oui. Alors c'est pour donc la question c'était est-ce que la sidération peut être comprise dans une zone grise ? Alors pour moi non, parce que justement dans les relations sexuelles que j'ai considérées comme zone grise, c'était justement celles qui étaient explicitement acceptées ou proposer. La sidération, justement, je ne voulais pas que ça en fasse partie parce que pour moi, la question de ne pas avoir de réponse et justement d'être sidéré, c'est-à-dire de physiquement ne pas être en capacité de bouger, pour moi, ça relève plutôt du côté d'une agression et du côté du fait qu'il y a eu silence, donc on ne peut pas le considérer comme une zone grise. Enfin, en tout cas, c'était pas là-dessus que moi j'avais envie de travailler. Moi, j'avais vraiment envie de comprendre ce truc de pourquoi les personnes acceptaient volontairement. Pourquoi volontairement on allait accepter et pas la réaction face à une violence explicite. Mais il y a dans certains travaux, et notamment il y a le reportage, je crois qu'il s'appelle Sexe sans consentement. Qui est disponible sur YouTube, un reportage d'infrarouge, où du coup, elle parle des zones grises du consentement par rapport à la loi et par rapport à justement toutes ces relations sexuelles qui n'ont... Comment dire ça ? Où il y a eu du silence, en fait. où la personne était trop alcoolisée, où la personne justement était figée. Voilà. Et donc, quand on entend les témoignages, il y a vraiment quelque chose de l'ordre plutôt d'une violence typique du viol. Mais voilà, après, tout dépend des approches et de comment on définit justement l'objet de recherche.
Je voulais vous dire, bon, je comprends bien les différentes zones grises que vous avez développées ce soir, mais moi je me posais une question, en fait, en disant zone grise, on arrive à se dire que c'est ni du consentement ni du non-consentement. Et du coup, je trouvais que ça allait plus en faveur justement des mecs ou des violeurs qui justement jouaient un peu sur ces thèmes-là, qui disent « bon, bah oui, mais au début elle m'a dit oui » ou machin. Et je trouvais ça un peu dangereux, justement, de parler de ça, parce que c'est un peu un entre-deux qui me gêne pour aller après, plus tard, en justice ou des trucs comme ça, quoi, pour faire valoir ses droits
et
en
oui,
tant que victime.
Tout à fait. Alors là, on est dans une zone grise juridique, en fait. Là, c'est vraiment au niveau de la loi qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait. Après... Moi, justement, le travail que j'ai mené, c'était vraiment de sortir d'une considération de est-ce que c'est un viol ou non. Et du coup, voilà, d'explorer, en fait, de pouvoir comprendre ce qui se passait, justement, entre un viol tel que... un viol violent, explicite, voilà, tel qu'il pourrait vraiment être porté en procès. Et justement... Une relation qui était réellement acceptée parce que du désir. Enfin, je pense pas non plus donner des outils aux violeurs en explicitant tout ça. Après, oui, de toute façon, c'est un débat aussi. Voilà, il y a beaucoup de débats autour de la dénomination de zone grise qui, justement, c'est ce que vous dites, qui... Je sais pas. Je sais vraiment pas répondre à cette question parce que dans tous les cas, en fait, tant que le viol sera cadré juridiquement comme la manière dont il l'est aujourd'hui, on pourra pas faire rentrer en compte toutes ces zones-là, en fait. Il faudrait soit éventuellement revoir la notion de consentement. Ou parler peut-être du coup dans les zones grises de parler de d'autres choses que du terme consentement parce que le consentement porte aussi un imaginaire quand on le mentionne ou après voilà faire une redéfinir la loi pour qu'elle corresponde mieux à ce que on trouve inadmissible par exemple voilà faire une loi où on dise que toute relation sexuelle qui n'est pas et encore ça serait problématique mais qui n'est pas explicitement acceptée est un viol, bon ben voilà, là on voit bien que par rapport à ces zones grises, ça peut poser problème. C'est toute une réflexion en fait à avoir collectivement et voilà. Oui, alors de quelle personne vous parlez des deux personnes parole contre parole ?
Une personne violée et une personne qui a violé, quoi.
Oui, alors il y a quand même très très peu de victimes qui mentent, parce que le parcours pour aller en procès est terriblement éprouvant. Il faut raconter son récit justement de viol à un nombre incalculable d'acteurs différents. Donc voilà, toujours faire en sorte de donner tous les détails possibles pour que, justement, on puisse la croire. Donc, voilà, il y a des études là-dessus qui montrent que vraiment très, très peu de personnes qui souhaitent amener leur agression sexuelle ou leur viol en justice mentent. Après, oui, effectivement, c'est parole contre parole. Et là, on pourrait aussi critiquer vivement le système juridique qui s'occupe des viols, puisque c'est à la... plaignante d'apporter la preuve qu'elle a été violée. Après, il y a vraiment beaucoup de... Il y a tout un système juridique qui va beaucoup plus loin que ce que la loi, en fait, juste énonce, parce qu'il faut aussi que l'acteur l'auteur de violence est soit dans une volonté d'imposer un acte sexuel. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout donné dans la loi sur les le contrainte, menace, force et surprise. Ce qu'on lit derrière, notamment en cours de cassation, on se rend compte que certains viols ont été rejetés parce que justement l'acteur, il n'y avait pas assez d'éléments qui prouvaient que l'acteur avait envie de violer une personne. Enfin, voilà, il y a des trucs vraiment qui vont au-delà après de la description de la loi. Et il y a des personnes qui mentent. Je pense que voilà, c'est plutôt pour le coup les personnes qui ont commis l'agression qui vont essayer d'embellir justement la vérité, comme vous le soulignez, à dire oui, elle avait dit oui, moi je savais pas, je pensais que ça voulait dire oui. Enfin, voilà, c'est un peu ce genre d'argument qu'on peut retrouver.
Est-ce que dans les personnes que vous avez interviewées, a posteriori, est-ce qu'il y en a qui vous ont dit qu'ils auraient peut-être dû porter plainte, par exemple ?
Je crois pas. Je crois pas parce que par exemple, les cas où il y a eu des viols dans l'enfance, les personnes ont préféré en fait confronter leur agresseur plus tard. C'était plus ça qui leur importait. Ouais, c'était plus de leur dire, voilà, tu m'as fait ça. J'ai eu des, enfin, oui, ça m'a empêché à certains moments de ma, ça m'a marqué sur certains moments de ma vie. J'ai besoin que tu le saches. Les deux personnes qui avaient vécu ça, elles ont plutôt confronté leur agresseur. Avec avec la justification habituelle, malheureusement, des personnes qui ne veulent pas porter plainte, c'était de toute façon, c'était il y a longtemps, je m'en souviens pas forcément, on va pas me croire, j'ai pas dit non. Il y avait ce truc de j'ai pas dit non. Ce qu'on peut retrouver. Ouais. Ça c'est renforcé par quand on voit que seuls, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais seuls 10% portent plainte et seuls 10% de ces 10%, je crois, sont instruites, 1%, sont instruites pénalement, quoi. Et alors pareil, dans les récits, j'ai pas eu cette référence au fait qu'il était que la personne était plus forte. Il y avait vraiment un truc de, pareil, ce mécanisme de culpabilité qui était de... je ne l'ai pas repoussé suffisamment fort, en fait. Je l'ai pas, j'ai participé à ça. Il y avait vraiment cette idée-là de... c'était même pas une question de « il était plus fort que moi », c'était « je ne l'ai pas stoppé fermement ». Il y a vraiment ce mécanisme-là qu'on retrouve assez souvent... chez les personnes qui ont été violées, de se dire c'est ma faute parce que j'aurais pu faire autrement, j'avais pas à avoir ce comportement-là. Et ça, c'est un mécanisme qui est aussi renforcé par tout ce qui est mis en place au niveau juridique ou au niveau pour mettre la faute sur la victime, en fait, tout ce qu'on peut voir dans la culture du viol.
Moi, je me pose la question dans quelle mesure. On a d'un côté un phénomène où il faut, on va dire, ne plus aller contre le genre, laisser les enfants, les petites filles comme les petits garçons jouer à des jeux sans qu'ils soient genrés, justement. Et puis, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Et je me dis, qu'est-ce que ça donne, tout ça, quand moi, ce que j'entends, c'est qu'à l'adolescence, on a une recrudescence maintenant de tout ce qui est pornographique, et bien avec un accès extrêmement facile et limité. Et les gens qui commencent à s'intéresser à tout ça disent que ça touche des ados de plus en plus jeunes, que quand on entre en collège, pas mal d'ados ont déjà vu ou passivement vu sur l'écran d'un autre jeune des images porno. Et là, pour le coup, on n'est carrément plus dans du non-genré, puisqu'il y a effectivement le modèle extrêmement caricatural de l'homme et effectivement en plus dominant ou qui est actif et en plus des fois dans de la violence sexuelle. Et du coup, la femme qui est non seulement passive, mais toujours consentante et toujours, même si elle dit non, elle dit oui. Enfin, c'est des propos qui sont donnés par certains jeunes. Quoi. Mais est-ce que si elle... Je crois que c'était un gynécologue qui a été interviewé la semaine dernière, professeur Israël quelque chose, ouais, merci, Nizan, et qui disait à un jeune qui lui demandait, parce qu'il intervient dans les lycées et collèges, mais si la fille ne veut pas, est-ce qu'on peut la tenir à deux ? Alors moi, je dis quand même, ça interpelle, parce que d'un côté, on a ce phénomène, justement, d'aller contre le genre et d'accepter chacun, et c'est plutôt pas mal. On se dit, mais quand on arrive à l'adolescence avec ce phénomène pornographique, on a l'impression que du coup, là, on est à un extrême complètement opposé du spectre et que pour le coup, ça va plutôt aller dans le sens inverse, quoi.
Bah, d'où l'important, je pense, que du coup, il y ait un cadre un peu plus structurant autour de ça et que justement, on puisse dire, bah, en fait, là, ce que vous voyez, c'est de la fiction. Les vraies relations sexuelles ne marchent pas comme ça, puisque pour tout un tas de raisons. Et voilà, là, je pense que bah, du coup, c'est très important que ces enfants qui sont confrontés à de la pornographie puissent avoir un espace où on va leur apprendre, voilà, que oui, qu'on va déconstruire que c'est pas ça la sexualité. Et ah non, mais de toute façon, il y a plein de choses qui ça se passe un peu. Exactement, il y a une circulaire qui est passée en 2003 en fait pour justement obliger les collèges et lycées à avoir deux ou trois séances de deux heures, qui sont très peu, trois séances de deux heures de ce qu'on voilà d'éducation à la d'éducation à la sexualité, où justement bah, en fait on va voir plein de on va étudier plein de choses, pas que le consentement, en fait. C'est là où les stéréotypes de genre sont aussi déconstruits. Et du coup, en fait, ça, si la forme a été imposée, en théorie, là aussi, à tous les collèges et lycées, n'importe qui, en fait, peut intervenir. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas besoin d'avoir eu une formation pour intervenir dans ces cours-là. Donc, généralement, c'est quand même... ils essayent de bien faire en, par exemple, faisant intervenir le planning familial, parfois l'infirmière du scolaire, ou voilà des intervenants autres, mais il y a aucune standardisation de ce qui va être dit là-dedans. Donc, si c'est une personne qui intervient en reproduisant certains stéréotypes, bon, bah voilà, il y aura aucun discours allant à l'encontre de ce que les enfants peuvent voir au quotidien, en fait.
Moi, j'avais deux questions. Je suis pas sûre d'avoir totalement compris la notion d'emprise. En tout cas, moi, je l'entendais pas comme vous, donc du coup, ça, je savais plus si j'avais bien compris. Et puis, la deuxième question, c'était est-ce que en parlant, en témoignant, en donnant leur biographie sexuelle, les personnes avec qui vous avez travaillé se sont dit à un moment donné que ça serait peut-être bien qu'ils discutent avec leur partenaire de certains malentendus.
Alors, sur la notion d'emprise, oui, je pense que j'ai mal choisi ce mot, pareil, là, quand je l'ai écrit, du coup, dans le sens où... En fait, j'avais pas d'autres mots pour signifier de manière courte ce que je voulais, ce que je voyais dans ce truc de tenir à la relation. À la fois, c'est pas une emprise non plus psychologique comme on peut l'entendre dans les violences, dans le schéma des violences conjugales. Et à la fois, il y a quand même quelque chose qui dit je vais faire ça pour faire tenir la relation. Donc voilà, moi du coup j'ai pas du tout investigué le côté psychologique puisque du coup je suis plutôt en sociologie. Donc voilà, c'était plus l'emprise par ce qu'apporte la relation, mais elle peut apporter quelque chose de, au niveau justement psychologique individuel, du fait que voilà, on va préférer se forcer à avoir des relations sexuelles plutôt que de se dire cette personne, enfin cette relation pourrait s'arrêter. Ça, est-ce que c'est plus clair ou... Ouais. Ok. Et par rapport à la deuxième question, bah, en fait, il s'avère que souvent les personnes discuter de ça avec... alors, discuter pas forcément de consentement, mais en tout cas, discuter de, leur, de leurs envies sexuelles. Quasiment toutes les personnes m'ont dit qu'à un moment, oui, qu'à un moment ou un autre, quand même, la sexualité était parlée dans les relations. Alors après, j'ai pas eu de retour, mais j'imagine que... le soir, quand les personnes ont retrouvé leur partenaire, bon, j'imagine, j'espère en tout cas que ça a occasionné des discussions. En tout cas, je sais que il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant, des personnes que je connaissais pas, hein, mais qui m'ont dit voilà, j'ai lu ce que vous écrivez et effectivement, en fait, j'ai pu en parler et je vois différemment. Je vois différemment les relations sexuelles que j'ai pu vivre et surtout voilà, celles que je vais vivre. Donc voilà, j'imagine que oui, que ça occasionne quand même... En tout cas, c'était vraiment l'espoir que j'avais avec, en faisant un livre de ce travail universitaire, c'était que ça puisse justement être transmis à des personnes et que ça puisse... faire ce que ça puisse questionner cet ordre-là du consentement.
Donc pour l'instant, on a beaucoup. Enfin, j'ai bien compris que votre livre était centré sur les relations sexuelles, mais je voulais savoir si les zones grises donc que vous avez identifiées, vous pensez qu'elles peuvent s'appliquer en fait à d'autres, voilà, à d'autres relations même en dehors du couple, qui seraient alors bon, je pense surtout aux femmes, mais voilà, des moments aussi où bah, le consentement n'est pas forcément si clair. Et pour d'autres relations qui peuvent être amicales ou même des inconnus qui vont avoir des gestes et on se dit, bah, pareil, la peur de ne pas vexer ou un certain cadre qui fait que bah, on ne peut pas vraiment... et est-ce que ça a été abordé aussi un petit peu en dehors des... Enfin, dans les entretiens ?
Alors moi du coup j'ai pas du tout abordé ça, mais pour le coup dans mes pratiques militantes c'est quelque chose sur lequel on se questionne, enfin avec j'ai pu me questionner là-dessus et notamment en fait l'exemple vraiment basique c'est le fait de forcer les enfants à faire la bise à tonton ou voire à l'ami de la famille et vraiment il y a vraiment cette éducation où on n'a pas envie que nos enfants apprennent à ce que leur corps n'est pas à eux, mais quand même, par politesse, on va dire « Ah non, il faut que tu fasses la bise, c'est sois gentil. » Il y a vraiment ce truc-là de « Sois gentil, sois poli, fais la bise. » Et moi, actuellement, par exemple, je suis en guerre contre la bise. Et en tout cas, des personnes que je ne connais pas ou à des personnes avec qui je n'ai pas envie de faire de bise. Et pareil, un truc tout bête, j'ai rencontré une collègue dans les bureaux de l'université, donc j'avais vu une seule fois, et en fait elle m'a surprise au détour d'un couloir, et ma réaction, juste, ça a été de me raccrocher à ce que j'avais appris, et ça a été de lui faire la bise, alors que c'est quelque chose que je... Voilà, sur lequel je suis contre, et voilà, c'est vraiment le fait d'avoir été surprise et du coup de me raccrocher à un cadre que je connais qui est on rencontre une personne, on lui fait la bise. Et après, oui, je pense évidemment que les questions de consentement peuvent aussi aller... et c'est important qu'elles aillent au-delà de la sexualité parce que justement, le consentir, juste... Ça, en tout cas, ça permet de délimiter aussi nos envies, notre espace personnel. Quand ce n'est pas lié directement à la sexualité, on peut déjà s'entraîner à refuser quelque chose de moins intime que la sexualité, c'est-à-dire voilà, s'entraîner à dire non aussi, s'entraîner à refuser et vraiment essayer de réfléchir à est-ce que j'ai envie de ça ? Non, bon, voilà, je dis non.
Oui, je trouve que l'exemple de la bise, il est parlant. Et justement, la notion entre respecter ce qu'on ressent, donc le côté intuition aussi. Hein. Il y a des gens avec qui on a envie de faire une bise, d'autres pas, même quand on est adulte. Et pour le coup, je trouve que si on proposait aux enfants, que ce soit dans le cadre familial ou effectivement au niveau scolaire, ce genre d'approche qui sont des petits trucs tout simples, hein, ça pourrait vraiment être comme une éducation à consentir vraiment quand c'est vraiment OK pour nous. Pour le coup, ça va dans le sens opposé de ce qu'on demande quand même la plupart du temps. Je vais faire un trait grossier, mais que ce soit dans le cadre familial ou le cadre éducationnel, on demande quand même la plupart du temps à ce que l'individu, hein, enfant ou après élève, soit quand même dans l'obéissance. Alors, bien sûr, cadré, parce qu'on veut lui apporter quelque chose qui va l'aider à se construire. Hein. Mm-hmm. Mais à aucun moment, on va l'interpeller sur est-ce que c'est OK pour lui, quoi. Ouais. Effectivement, ce genre d'expérience, hein, que ce soit la bise, ça pourrait être autre chose qui va faire que l'enfant se questionne, et après plus tard le jeune, hein, qu'il ait 12 ans, 18 ans, se questionne, est-ce que c'est OK pour moi ? Non, ça ne l'est pas là. Et on se dit, derrière ce consentement ou cette zone floue, il y a quand même toute cette éducation de politesse, d'être gentil. C'est quand même un gros package, et effectivement, se dire qu'on peut apporter de l'éducation aux jeunes par quelques interventions extérieures, j'ai l'impression des fois que c'est utopique, voilà. C'est mon impression. Voilà. Mais après, les choses évoluent, et effectivement, ça peut... Mais j'ai dit, c'est tellement un dans l'éducation d'avoir ce côté un peu comme ça soumis, et effectivement, c'est majoré quand on est féminin. C'est-à-dire quand on est une petite fille ou une femme, il y a ce côté majoré aussi pour le coup, quoi.
Ah mais tout à fait, oui. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est ça, c'est quoi, on n'invite pas les individus à se questionner sur voilà, ce qu'ils et elles ont envie. Et d'un coup, en fait, on attend des individus que dans la sexualité, ils se positionnent, ils et elles se positionnent en disant bah, si t'as envie ou t'as pas envie. Alors que c'est vrai que bon, il n'y a pas eu forcément d'invitation à découvrir quelque chose aussi d'assez marquant, je trouve, c'est par rapport à la masturbation, où on va certaines manières de des parents, de, par exemple, de tomber sur leur enfant qui se masturbe en public parce que bon, bah, c'est agréable, mais qui n'a pas la conscience que c'est quelque chose qui lui appartient. Voilà. Et il y a des récits où les personnes disent ben, ma mère, voilà, la faute des mères, ma mère m'a dit tu fais pas ça, c'est dégueulasse. Bon, ben voilà, il y a des choses qui s'inscrivent sur la masturbation, c'est dégueulasse, mais voilà, à cause de phrases. Qui frappe à un moment, en fait, et à cause voilà, d'une éducation. Et je pense que ce genre de phrases peuvent être contournées, justement, si on croise des personnes qui vont nous dire bah, « En fait, non, c'est pas dégueulasse, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est juste que... » Voilà, avoir une explication, je pense, différente de toutes les normes qui opèrent dans la société. Et de toute façon, c'est utopique à partir du moment où il n'y aura pas une vraie remise en question des instances véritablement qui nous dépassent, en fait, de tout ce qui va nous dépasser. C'est compliqué quand on voit dans la culture cinématographique récente qu'une personne qui est accusée de viol continue à faire des films et à sortir ses films et à faire des interventions. Voilà, on se dit bon, peut-être que... Voilà, où est la justice, le système, enfin. Et c'est pour ça que je pense que moi j'ai plus confiance aux individus en tant que dans ce qu'ils peuvent amener comme changement que voilà, d'une remise en question par le haut, en fait. Avec justement des outils alternatifs, de prendre conscience que certaines idées du féministe sont vraiment bonnes. Pour l'éducation de toutes et tous, voilà, d'accepter aussi de remettre en question ses privilégies, ses présupposés, d'accepter que le cadre dans lequel on a toujours évolué se renouvelle. Voilà, c'est d'accepter de modifier réellement des scripts qu'on a intériorisés, en fait. La révolution, c'est pour bientôt. Bah, merci, du coup, d'avoir patienté.